Aristote, Métaphysique, livre 9, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. Nous avons parlé de la puissance motrice. Occupons-nous de l'acte et déterminons ce que c'est que l'acte et quels sont ses modes. Cette recherche nous mettra à même de montrer que puissant ne s'entend pas seulement de ce qui a la propriété de mouvoir une autre chose ou de recevoir d'elle le mouvement, mouvement proprement dit ou mouvement de telle ou telle nature, mais qu'il a encore d'autres significations. Nous déterminerons ces significations dans le cours de cette recherche. L'acte est, pour un objet, l'état opposé à la puissance. Nous disons par exemple que l'Hermès est en puissance dans le bois, que la moitié de la ligne est en puissance dans la ligne entière, parce qu'elle pourrait en être tirée. On donne aussi le nom de savant en puissance, même à celui qui n'étudie pas, s'il a la faculté d'étudier. On peut conclure facilement de ces différents exemples particuliers ce que nous entendons par acte. Il ne faut point chercher à tout définir exactement, mais se contenter quelquefois d'analogies. L'acte, ce sera donc l'être qui bâtit relativement à celui qui a la faculté de bâtir, l'être qui est éveillé relativement à celui qui dort, l'être qui voit par rapport à celui qui a les yeux fermés, tout en ayant la faculté de voir. L'objet tiré de la matière relativement à la matière. Ce qui est fait par rapport à ce qui n'est point fait. Donnons le nom d'acte au premier terme de ces diverses relations. Les autres termes sont la puissance. Acte ne s'entend pas toujours de la même manière, si ce n'est par analogie. On dit « tel objet est dans tel autre » ou « relatif à tel autre ». On dit aussi « tel objet est en acte dans tel autre » ou « relativement à tel autre ». Car l'acte signifie tantôt le mouvement relativement à la puissance, tantôt l'essence relativement à une certaine matière. La puissance et l'acte, pour l'infini, le vide et tous les êtres de ce genre, s'entendent d'une autre manière que pour la plupart des autres êtres, tels que ceux qui voient, ceux qui marchent, ceux qui est vu. Dans ces derniers cas, l'affirmation de l'existence peut être vraie, soit absolument, soit dans telle circonstance donnée. Visible se dit « ou » de ce qui est vu réellement ou de ce qui peut être vu. Mais la puissance pour l'infini n'est pas d'une nature telle que l'acte puisse jamais se réaliser sinon par la pensée. En tant que la division se prolonge à l'infini, on dit que l'acte de la division existe en puissance, mais il n'existe jamais séparé de la puissance. Comme toutes les actions qui ont un terme ne sont pas elles-mêmes un but, mais tendent à un but. Ainsi, le but de l'amaigrissement est la maigreur. Ces actions, telles que l'amaigrissement, sont, il est vrai, des mouvements, mais ne sont point le but du mouvement. On ne peut considérer ces faits comme des actes, du moins comme des actes complets, car ils ne sont pas un but, mais seulement tendent au but et à l'acte. On peut voir, on peut concevoir, penser et avoir vu, conçu, pensé. Mais on ne peut pas apprendre et avoir appris la même chose, guérir et avoir été guéri. On peut bien vivre et avoir bien vécu, être heureux et avoir été heureux tout à la fois. Sans cela, il faudrait qu'il y eût des points d'arrêt dans la vie comme il peut arriver pour l'amaigrissement. Mais c'est ce qui n'a jamais lieu. On vit et on a vécu. De ces différents modes, appelons les uns mouvements, les autres actes. Car tout mouvement est incomplet. Ainsi, l'amaigrissement, l'étude, la marche, la construction et les différents modes dont nous avons parlé sont des mouvements et des mouvements incomplets. On ne peut point faire un pas et l'avoir fait en même temps, bâtir et avoir bâti, devenir et être devenu, imprimer ou recevoir un mouvement et l'avoir reçu. Le moteur diffère de l'être en mouvement, mais le même être, au contraire, peut en même temps voir et avoir vu, penser et avoir pensé. Ce sont ces derniers faits que j'appelle des actes. Les autres ne sont que des mouvements. Ces exemples, ou tout autre exemple du même genre, suffisent pour montrer clairement ce que c'est que l'acte et quelle est sa nature. Chapitre 7. Il nous faut déterminer quand un être est ou n'est pas en puissance un autre être, car il n'y a pas puissance dans tous les cas. Ainsi, la terre est-elle, oui ou non, l'homme en puissance? Elle aura plutôt ce caractère quand déjà elle sera devenue sperme, et peut-être même alors ne sera-t-elle pas encore l'homme en puissance. De même, tout ne peut pas être rendu à la santé par la médecine et le hasard. Mais il y a des êtres qui ont cette propriété, et ce sont ceux-là qu'on appelle saints en puissance. Le passage de la puissance à l'acte pour la pensée peut se définir, la volonté se réalisant sans rencontrer aucun obstacle extérieur. Ici, au contraire, pour l'être qui est guéri, il y aura puissance, s'il n'y a en lui-même aucun obstacle. De même, la maison aussi sera en puissance s'il n'y a rien en elle, s'il n'y a rien dans la matière qui s'oppose à ce qu'une maison soit produite. S'il n'y a rien à ajouter, à retrancher, à changer, la matière sera la maison en puissance. Il en sera de même encore pour tous les êtres qui ont en dehors d'eux-mêmes le principe de leur production, et pour ceux qui, ayant eu ce principe, existeront par eux-mêmes si rien d'extérieur ne s'y oppose. Le sperme n'est point encore l'homme en puissance. Il faut qu'il soit dans un autre être et qu'il subisse un changement. Lorsque, déjà, en vertu de l'action de son propre principe, il aura ce caractère, lorsqu'il aura enfin la propriété de produire si rien d'extérieur ne s'y oppose, alors il sera l'homme en puissance. Mais il faut pour cela l'action d'un autre principe. Ainsi, la terre n'est pas encore la statue en puissance. Il faut qu'elle se change en airain pour avoir ce caractère. L'être qui contient un autre être en puissance est celui duquel on dit non point qu'il est cela, mais qu'il est de cela. Un coffre n'est pas en bois, mais de bois. Le bois n'est pas terre, mais de terre. S'il en est ainsi, si la matière qui contient un être en puissance est celle relativement à laquelle on dit cet être et non pas cet autre, mais de cet autre, la terre ne contiendra l'être en puissance que d'une manière secondaire. Ainsi, on ne dit point que le coffre est de terre ou qu'il est terre, mais qu'il est de bois, car c'est le bois qui est le coffre en puissance. Le bois en général est la matière du coffre en général. Tel bois est la matière de tel coffre. S'il y a quelque chose de premier, quelque chose qu'on ne puisse point rapporter à autre chose en disant qu'il est de cela, ce sera la matière première. si la terre est d'air, si l'air n'est pas feu, mais de feu, le feu sera la matière première, le cela, la substance. C'est par là que diffèrent l'universel et le sujet. L'un est un être réel, mais non pas l'autre. Ainsi, l'homme, le corps, l'âme sont les sujets des diverses modifications. La modification, c'est le musicien, le blanc. Lorsque la musique est une qualité de tel sujet, on ne dit pas qu'il est musique, mais musicien. On ne dit pas que l'homme est blancheur, mais qu'il est blanc. Qu'il marche ou mouvement, mais qu'il est en marche ou en mouvement. Comme on dit que l'être est de cela. Les êtres qui sont dans ce cas, les êtres premiers sont des substances. C'est la matière et la substance matérielle. Et c'est avec raison qu'on ne dit point en parlant de la matière, non plus qu'en parlant des modifications, qu'elles sont de cela. Car la matière et les modifications sont également indéterminées. Nous avons vu, quand il faut dire qu'une chose en contient une autre en puissance et quand elle ne la contient pas. Chapitre 8. Nous avons établi de combien de manières s'entend la priorité. Et il est évident, d'après ce que nous avons dit, que l'acte est antérieur à la puissance. Et par puissance, je n'entends pas seulement la puissance déterminée, celle qu'on définit, le principe du changement placé dans un autre être, en tant qu'autre, mais en général, tout principe de mouvement ou de repos. La nature est dans ce cas. Il y a, entre elle et la puissance, identité de genre. Elle est un principe de mouvement, non point placé dans un autre être, mais dans le même être en tant que lui-même. Pour toutes les puissances de cette espèce, l'acte est antérieur à la puissance, et sous le rapport de la notion et sous le rapport de l'essence. Sous le rapport du temps, l'acte est quelquefois antérieur, quelquefois non. Que l'acte est antérieur sous le rapport de la notion, c'est ce qui est évident. La puissance première n'est puissante que parce qu'elle peut agir. C'est dans ce sens que j'appelle constructeur celui qui peut construire, doué de la vue celui qui peut voir, visible ce qui peut être vu. Le même raisonnement s'applique à tout le reste. Il faut donc de toute nécessité que la notion précède. Toute connaissance doit s'appuyer sur une connaissance. Voici, sous le rapport du temps, comment il faut entendre l'antériorité. L'être qui agit est antérieur génériquement, mais non point quant au nombre. La matière, la semence, la faculté de voir sont antérieurs, sous le rapport du temps, à cet homme qui est actuellement en acte, au froment, au cheval, à la vision. Elles sont, en puissance, l'homme, le froment, la vision, mais elles ne les sont pas en acte. Ces puissances viennent elles-mêmes d'autres êtres, lesquels, sous le rapport du temps, sont en acte antérieurement à elles. Car il faut toujours que l'acte provienne de la puissance, par l'action d'un être qui existe en acte. Ainsi, l'homme vient de l'homme, le musicien se forme sous le musicien. Il y a toujours un premier moteur, et le premier moteur existe déjà en acte. Nous avons dit en parlant de la substance que tout ce qui est produit vient de quelque chose, est produit par quelque chose, et que l'être produit est de même espèce que le moteur. Aussi est-il impossible, ce semble, d'être constructeur sans avoir jamais rien construit, joueur de flûte sans avoir joué, car c'est en jouant de la flûte qu'on apprend à en jouer. De même pour tous les autres cas. Et de là, cet argument sophistique que celui qui ne connaît pas une science fera donc les choses qui sont l'objet de cette science. Oui, sans doute, celui qui étudie ne possède pas encore la science. Mais de même que dans toute production, il existe déjà quelque chose de produit, que dans tout mouvement, il y a déjà un mouvement accompli, et nous l'avons démontré dans notre traité sur le mouvement, de même aussi, il faut nécessairement que celui qui étudie possède déjà quelques éléments de la science. Il résulte de ce qui précède que, dans ce sens, l'acte est antérieur à la puissance et sous le rapport de la production et sous le rapport du temps. Il est aussi antérieur sous le rapport de la substance. D'abord, parce que ce qui est postérieur quant à la production est antérieur quant à la forme et à la substance. Ainsi, l'homme fait est antérieur à l'enfant. L'homme est antérieur au sperme, car l'un a déjà la forme, l'autre ne l'a point. Ensuite, parce que tout ce qui se produit tend à un principe et à un but, car la cause finale est un principe et la production a pour but ce principe. L'acte aussi est un but, et la puissance est en vue de ce but. En effet, les animaux ne voient pas pour avoir la vue, mais ils ont la vue pour voir. De même, on possède l'art de bâtir pour bâtir, la science spéculative pour s'élever à la spéculation, mais on ne s'élève pas à la spéculation pour posséder la science, sinon lorsqu'on apprend. Encore, dans ce dernier cas, n'y a-t-il réellement pas spéculation, il n'y a qu'un exercice. La spéculation pure n'a pas pour objet la satisfaction de nos besoins. De même aussi, la matière proprement dite est une puissance parce qu'elle est susceptible de recevoir une forme. Lorsqu'elle est en acte, alors elle possède la forme. De même enfin pour les autres cas. De même, pour les choses dont le but est un mouvement. Il en est de la nature comme des maîtres, lesquels pensent avoir atteint le but lorsqu'ils ont montré leurs élèves à l'œuvre. Et en effet, s'il n'en était pas ainsi, on pourrait comparer leurs élèves à l'Hermès de Pason. On ne reconnaîtrait point s'ils ont ou non la science, pas plus qu'on ne pourrait reconnaître si l'Hermès était en dedans ou en dehors de la pierre. L'œuvre, c'est le but, et l'action, c'est l'œuvre. Voilà pourquoi le mot action s'applique à l'œuvre et pourquoi l'action est un acheminement à l'acte. Ajoutons que la fin de certaines choses est simplement l'exercice. La fin de la vue, c'est la vision, et la vue ne produit absolument rien d'autre que la vision. Dans d'autres cas, au contraire, autre chose est produit. Ainsi, de l'art de bâtir dérive non seulement la construction, mais la maison. Toutefois, il n'y a réellement pas de fin dans le premier cas. C'est surtout dans le second que la puissance a une fin, car la construction existe dans ce qui est construit. Elle naît, elle existe en même temps que la maison. D'après cela, dans tous les cas où, indépendamment de l'exercice pur et simple, il y a quelque chose de produit, l'action est dans l'objet même qui est produit. La construction, par exemple, dans ce qui est construit. Le tissage, dans ce qui est tissé. De même pour tout le reste. Et en général, dans ce cas, le mouvement est dans l'objet même qui est en mouvement. Mais toutes les fois qu'en dehors de l'acte, il n'y a rien d'autre de produit, l'acte existe dans le sujet même. La vision, par exemple, est dans l'être qui voit. La théorie, dans celui qui fait la théorie. La vie, dans l'âme. Et par suite, le bonheur même est un acte de l'âme, car le bonheur aussi est une sorte de vie. Il est donc évident que l'essence et la forme sont des actes, d'où il suit évidemment aussi que l'acte sous le rapport de la substance est antérieur à la puissance. Par la même raison, l'acte est antérieur sous le rapport du temps. Et l'on remonte, comme nous l'avons dit, d'acte en acte, jusqu'à ce qu'on arrive à l'acte du moteur premier et éternel. Du reste, on peut rendre plus manifeste encore la vérité de notre proposition. Les êtres éternels sont antérieurs quant à la substance aux êtres périssables. Et rien de ce qui est en puissance n'est éternel. On peut l'établir ainsi. Toute puissance suppose en même temps les contraires. Ce qui n'a pas la puissance d'exister n'existera nécessairement jamais. Mais tout ce qui est en puissance peut fort bien ne point passer à l'acte. Ce qui a la puissance d'être peut donc être ou n'être pas. La même chose a alors la puissance d'être et de ne pas être. Mais il peut se faire que ce qui a la puissance de ne pas être ne soit pas. Or, ce qui peut ne pas être est périssable, périssable absolument, ou bien périssable sous le point de vue où il peut ne pas être quant au lieu, à la quantité, à la qualité. Périssable absolument signifie périssable quant à l'essence. Rien donc de ce qui est périssable absolument n'est absolument en puissance, mais il peut être en puissance sous certains points de vue. Ainsi, quant à la qualité, quant au lieu. Tout ce qui est impérissable est en acte. Il en est de même des principes nécessaires, car ce sont des principes premiers. S'ils n'étaient pas, rien ne serait. De même, pour le mouvement, s'il y a quelque mouvement éternel. Et s'il y a quelque objet qui soit dans un mouvement éternel, il ne se meut pas en puissance, à moins qu'on entende par là la puissance de passer d'un lieu dans un autre. Rien n'empêche que cet objet, soumis à un mouvement éternel, ne soit éternel. C'est pour cela que le soleil, les astres, le ciel tout entier sont toujours en acte. Il n'y a pas à craindre qu'ils s'arrêtent jamais comme le craignent les physiciens. Ils ne se lassent point dans leur marche, car leur mouvement n'est point comme celui des êtres périssables, l'action d'une puissance qui admet les contraires. Ce qui fait que la continuité du mouvement est fatigante pour ces derniers, c'est que la substance des êtres périssables, c'est la matière, et que la matière existe seulement en puissance et non en acte. Toutefois, certains êtres soumis au changement sont eux-mêmes, sous ce rapport, une image des êtres impérissables, tels sont le feu, la terre. En effet, ils sont toujours en acte, car ils ont le mouvement par eux-mêmes et en eux. Les autres puissances que nous avons déterminées admettent toutes les contraires. Ce qui a la puissance de produire un mouvement de telle nature peut aussi ne pas le produire. Je parle ici des puissances rationnelles. Quant aux puissances irrationnelles, elles admettent aussi les contraires, en tant qu'elles peuvent être ou ne pas être. Si donc il y avait des natures, des substances du genre de celles dont parlent les partisans de la doctrine des idées. Un être quelconque serait bien plus savant que la science en soi, un objet en mouvement serait bien plus en mouvement que le mouvement en soi, car l'un serait l'acte et l'autre est seulement la puissance. Il est donc évident que l'acte est antérieur à la puissance et à tout principe de changement. Chapitre 9. Il est évident d'après cela que l'actualité du bien est préférable à la puissance du bien et qu'elle est plus digne de nos respects. Chez tous les êtres, on dit qu'ils peuvent, le même être peut les contraires. Celui dont on dit par exemple, il peut être en bonne santé, celui-là même peut être malade, et cela en même temps qu'il est en bonne santé. La même puissance produit la santé et la maladie, la même le repos et le mouvement. C'est la même puissance qui construit la maison et qui la détruit. Et c'est en vertu de la même puissance que la maison est construite et qu'elle est détruite. C'est donc simultanément que le pouvoir des contraires réside dans les êtres. Mais il est impossible que les contraires existent simultanément. Impossible qu'il y ait simultanéité dans les actes divers. Qu'il y ait à la fois, par exemple, santé et maladie. Donc, le bien en acte est nécessairement l'un des deux contraires. Or, où la puissance est également l'un et l'autre des contraires, où elle n'est ni l'un ni l'autre. Donc, l'actualité du bien est meilleure que la puissance du bien. Quant au mal, sa fin et son actualité sont nécessairement pires que sa puissance. Lorsqu'il n'y a que pouvoir, le même être est à la fois les deux contraires. Le mal, on le voit, n'a pas une existence indépendante des choses, car le mal est, de sa nature, inférieur même à la puissance. Il n'y a donc dans les principes, dans les êtres éternels, ni mal, ni péché, ni destruction, car la destruction compte, elle aussi, au nombre des maux. C'est en réduisant à l'acte les figures géométriques que nous découvrons leurs propriétés, car c'est par une décomposition que nous trouvons les propriétés de ces figures. Si elles étaient de leur nature décomposées, leurs propriétés seraient évidentes. Mais c'est en puissance que les propriétés existent avant la décomposition. Pourquoi la somme des trois angles d'un triangle est-elle égale à deux angles droits? Parce que la somme des angles formés autour d'un même point sur une même ligne est égale à deux angles droits. Si l'on formait l'angle extérieur en prolongeant l'un des côtés du triangle, la démonstration serait immédiatement évidente. Pourquoi l'angle inscrit dans le demi-cercle est-il invariablement un angle droit? C'est parce qu'il y a égalité en ces trois lignes, savoir les deux moitiés de la base et la droite menée du centre du cercle au sommet de l'angle opposé à la base. L'égalité, si nous connaissons la démonstration, nous fait reconnaître la propriété de l'angle inscrit. Il est donc clair que c'est par la réduction à l'acte qu'on découvre ce qu'il y a dans la puissance. Et la cause en est que l'actualité, c'est la conception même. Donc, c'est de l'acte que se déduit la puissance. Donc aussi, c'est par l'acte qu'on connaît. Quant à l'actualité numérique, elle est postérieure à la puissance dans l'ordre de production. Chapitre 10. L'être et le non-être se prennent sous diverses acceptions. Il y a l'être selon les diverses formes des catégories. Puis, l'être en puissance ou l'être en acte des catégories. Il y a les contraires de ces êtres. Mais, l'être proprement dit, c'est surtout le vrai. Le non-être, c'est le faux. La réunion ou la séparation, voilà ce qui constitue la vérité ou la fausseté des choses. Celui-là, par conséquent, est dans le vrai, qui pense que ce qui réellement est séparé, que ce qui réellement est réuni. Mais, celui-là est dans le faux, qui pense le contraire de ce que, dans quelles circonstances, sont ou ne sont pas les choses. Par conséquent, tout ce qu'on dit est ou vrai ou faux, car il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que nous pensons que tu es blanc en effet. C'est parce que, en effet, tu es blanc, qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. Il est des choses qui sont éternellement réunies, et leur séparation est impossible. D'autres sont éternellement séparées, et il est impossible de les réunir. D'autres, enfin, admettent les états contraires. Alors, être, c'est être réuni, c'est être un. N'être pas, c'est être séparé, être plusieurs. Quand il s'agit des choses qui admettent les états contraires, la même pensée, la même proposition deviennent successivement fausses et vraies. Et l'on peut être tantôt dans le vrai, tantôt dans le faux. Mais quand il s'agit des choses qui ne sauraient être autrement qu'elles ne sont, il n'y a plus tantôt vérité, tantôt fausseté. Ces choses sont éternellement vraies ou fausses. Mais qu'est-ce que l'être ou le non-être? Qu'est-ce que le vrai ou le faux dans les choses qui ne sont pas composées? Là, sans nul doute, l'être, ce n'est pas la composition. Ce n'est pas lorsqu'elles sont composées que les choses sont. Lorsqu'elles ne sont pas composées, qu'elles ne sont pas. Comme le bois est blanc, comme le rapport de la diagonale au côté du carré est incommensurable, le vrai et le faux sont-ils donc dans ces choses ce qu'ils sont dans les autres? Ou bien plutôt, la vérité et l'être ainsi que la vérité ne sont-ils pas ici différents de ce qu'ils sont ailleurs? Or, voici ce que c'est que le vrai, et voici ce que c'est que le faux dans ces objets. Le vrai, c'est percevoir et dire ce qu'on perçoit. Et dire, ce n'est pas la même chose qu'affirmer. Ignorer, c'est ne pas percevoir, car on ne peut être dans le faux qu'accidentellement quand il s'agit des essences. De même pour les substances simples, car il est impossible d'être dans le faux à leur égard. Toutes, elles existent en acte, non en puissance, sinon elles naîtraient et périraient. Or, il n'y a pour l'être en soi ni production ni destruction. Sans cela, il procéderait d'un autre être. Donc, il ne peut y avoir d'erreur au sujet des êtres qui ont une existence déterminée, qui existent en acte. Seulement, il y a ou il n'y a pas pensée de ces êtres. Toutefois, on examine quels sont leurs caractères, s'ils sont ou ne sont pas tels ou tels. L'être, considéré comme le vrai, et le non-être comme le faux, s'entendent donc sous un point de vue, le vrai quand il y a réunion, le faux quand il n'y a pas réunion. Sous un autre point de vue, l'être, c'est l'existence déterminée, et l'existence indéterminée, c'est le non-être. Dans ce cas, la vérité, c'est la pensée qu'on a de ces êtres, et il n'y a alors ni fausseté, ni erreur. Il n'y a que l'ignorance, ignorance qui ne ressemble pas à l'état de l'aveugle, car l'état de l'aveugle, ce serait n'avoir absolument pas la faculté de concevoir. Il est évident, en outre, si l'on admet des êtres immobiles, que les êtres immobiles ne peuvent dans aucun temps être des sujets d'erreur. Si le triangle n'est pas sujet au changement, on ne saurait penser tantôt que la somme de ses angles vaut, tantôt qu'elles ne vont pas deux angles droits. Sinon, ils seraient sujets au changement. Mais on peut penser que tel être est immobile, que tel autre ne l'est pas. Ainsi, on peut penser qu'il n'y a aucun nombre pair qui soit premier. Ou bien que parmi les nombres pairs, les uns sont premiers, les autres non. Mais s'agit-il des êtres qui sont un numériquement ? Cela même n'est plus possible. On ne peut plus penser que dans certains cas il y a unité, tandis qu'il n'y aurait pas unité dans les autres cas. Dès lors, on sera dans le vrai ou dans le faux, parce qu'il y a toujours unité. Fin du livre 9e.